va se réaliser, comment la fin va arriver dans ce monde. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans Daniel. Daniel 2, à partir du verset 36. Daniel 2, à partir du verset 36. Ça peut être intéressant à la maison de regarder les versets précédents pour bien voir comment le Seigneur parle à ses serviteurs et comment le Seigneur annonce des prophéties extrêmement avant qu'elles n'arrivent, bien avant qu'elles n'arrivent. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination, où qu'il habite, les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux. Il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume, inférieur au tien. Puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide, comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile de Potier et en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer, en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Amen. Et Seigneur, nous savons que tu es grand. Nous savons, Seigneur, qu'en toutes circonstances, tu es avec nous, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que dans ta parole, tu dis que quand nous sommes faibles, c'est quand tu es fort en nous, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que je puisse rester faible, que tu sois fort, afin de parler à ton peuple, Seigneur, et que les âmes soient touchées et que les âmes soient délivrées. Tu es venu délivrer les captifs, Seigneur. Seigneur, que personne reste en captivité dans cette salle. Que personne, Seigneur, ne soit attaqué par le mal. C'est toi qui as triomphé à la croix. Nous voulons, Seigneur, ce matin nous revêtir de ta victoire, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu as proclamé une année de grâce. Maintenant, Seigneur, nous sommes en année de grâce, Seigneur. Et nous avons la paix en toi seul qui donne le repos. Que le nom de Jésus soit. Amen. Daniel se trouve à Babylone après la déportation et il y a un roi qui fait un rêve. La surprise, c'est de voir que le roi va appeler tous les magiciens, tous les devins, pour leur dire. Dans le début du chapitre 2, vous devez me dire le rêve et l'interprétation. J'aime cette question parce que c'est l'esprit de la prophétie. Quand il y a une prophétie, on n'a pas besoin qu'on vous dise, si on est prophète, une partie de la prophétie pour donner l'explication. C'est trop facile. Le roi avait compris qu'il y avait autour de lui quelques charlatans, et s'il leur donnait une partie du rêve, ils allaient chacun venir avec une interprétation qui semble coller. Vous comprenez bien que dans cette explication, on retrouve quelqu'un qu'on connaît bien, Satan, puisque Satan ne fait qu'utiliser ce qu'il voit. Satan ne peut pas faire de prophétie. Il ne peut pas. Mais il n'utilise que ce qu'il voit, il ne dérobe que ce qu'il voit. Donc le roi va dire, maintenant, si personne ne me dit le rêve et l'explication, j'élimine tout le monde. La gloire de Dieu, c'est que Daniel va demander du temps pour s'adresser à Dieu, parce que la prophétie vient de Dieu. C'est extrêmement important de le comprendre. La prophétie, c'est le Seigneur qui parle à travers un homme, à travers des écrits, mais toute l'essence de la prophétie, c'est le Seigneur. Et Daniel va donner l'explication de tout ce que, du rêve d'abord, il va expliquer le rêve, ensuite il va expliquer ce que ça signifie. Et vous voyez, dans ce rêve, le roi va voir plusieurs royaumes. Il y en a quatre. Le quatrième royaume, c'est le quatrième que nous vivons aujourd'hui, celui qui est d'argile et de fer. Et ce royaume-là, il détruit, il oppresse. Mais la bonne nouvelle, c'est que Daniel dit au roi, ben ce royaume sera détruit par un autre. Et cet autre royaume va être là éternellement. Christ est déjà annoncé. Le royaume éternel est le royaume de Jésus-Christ. Imaginez-vous qu'au temps de Daniel, Dieu se manifestait déjà en disant que le royaume de Jésus va venir sur terre. Que Jésus va régner. Jésus règne d'abord dans les cœurs quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais ensuite, Jésus va descendre sur cette terre. Parce que vous savez que les Juifs ont eu du mal à comprendre la première venue du Christ pour les péchés, parce que pour eux, Jésus, le Messie, doit venir et régner sur terre. C'est vrai, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Là, nous lisons Daniel 2, Christ n'est pas encore venu, il y a plusieurs prophètes qui viennent après Daniel, mais Dieu annonce déjà. Et si vous voyez dans Ézéchiel, c'est déjà annoncé. Si vous repartez dans Genèse, c'est aussi déjà annoncé que Jésus va venir. Dieu est bon. Il nous fait grâce de connaître ce qui viendra à la fin. Matthieu 24. Jésus maintenant va parler de la même situation. Matthieu 24, les versets 26 à 35. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou le voilà, il est dans un lieu secret. Ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, dans tous les peuples de la terre. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges. Il enverra ses anges aux quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez l'instruction de la parabole du figuier. Dès que les branches deviennent tendres, et que les feuilles poussent. Vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Ici, le Seigneur parle de son retour glorieux sur terre. Si vous lisez Matthieu 25, vous verrez qu'il parle à des jeunes filles 10 filles qui vont rester attachées à Dieu, 10 autres qui ne vont pas être attachées à Dieu. Et Matthieu 25 vous permet de comprendre que avant, parce que lorsqu'on lit les versets bibliques, il ne faut pas rester sur une chronologie du nombre. Ce n'est pas parce que le 24 précède le 25 que nécessairement ce qui se passe dans le 25 se passera après le 24. C'est-à-dire que dans le 25, Jésus parle de l'enlèvement. Ensuite, dans le 24, Jésus parle de son retour sur terre. Parce qu'il y a souvent une confusion entre l'enlèvement et le retour sur terre. L'enlèvement, ce n'est pas la même chose que le retour du Seigneur sur terre. L'agneau de Dieu immolé nous fait grâce de lire ces choses dans sa parole et de mieux les appréhender. Un texte pour comprendre l'enlèvement, c'est 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, avec lui, ceux qui sont morts. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés dans le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Cette question était posée à l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul explique en fait, et ces textes vous pouvez aussi les retrouver dans le livre de Zacharie, au son de la trompette, en un instant, ceux qui sont morts ressuscitent. Ensuite, ceux qui sont sur terre, vous remarquerez que le texte parle au présent. L'apôtre Paul écrit et il parle au présent. J'aime beaucoup la Bible parce qu'en fait, la Bible vraiment nous parle directement. Pour ceux qui seront encore en vie sur terre en ce moment-là, ils verront d'abord que ceux qui sont morts vont aller vers le Seigneur au son de la trompette. Mais ceux qui sont sur terre aussi, qui ont accepté Jésus, qui sont nés de nouveau, qui ont l'empreinte de l'Esprit Saint sur eux, ceux-là aussi vont quitter le sol, vont disparaître pour aller vers le Seigneur. Maintenant, j'attire votre attention sur une partie que Jésus a dit dans Matthieu 24, c'est qu'il a dit, on va vous dire qu'il est ici, qu'il est là, n'y allez pas. Le malin est un usurpateur. Au moment où la fin des temps arrive, au moment où l'enlèvement arrive, le malin fera beaucoup de signes miraculeux. Attention, il faut faire très attention aux miracles. Les miracles sont de Dieu. Amen. Satan aussi fait des miracles. Quand Moïse se retrouve devant Pharaon, il va jeter sa verge, vous lisez dans l'Exode. Il jette le bâton se transforme en serpent. Les magiciens de Pharaon jettent aussi leur bâton, ils se transforment en serpent. Attention, Satan peut opérer même des guérisons physiques aussi. Quelqu'un est malade, avec ses démons, ils vont faire croire qu'ils ont guéri. Mais quand Satan guérit, en fait, il prend l'âme. Il te fait croire qu'il t'a guéri, mais lui, il t'a pris l'âme. L'âme maintenant lui appartient, tu deviens son esclave. Donc il faut bien discerner les choses de Dieu. Et j'aime le Seigneur parce qu'en toute chose, il nous demande de lui demander sa volonté. C'est toute l'explication de la prière « Notre Père qui est aux cieux » et c'est l'une des prières les moins utilisées par les croyants. Et pourtant nous disons « Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu demandes la volonté de Dieu?
chercher sa face. Il faut chercher le Seigneur pour être dirigé par lui. Parce que le malin, il est extrêmement subtil. Il peut utiliser des signes qu'on voit dans la Bible pour faire croire aux gens qu'il y a l'enlèvement à un endroit donné. Et les gens iront, ceux qui n'ont pas lu la Bible. Mais ceux qui chercheront la face de Dieu n'iront pas vers ces lieux obscurs. Parce que le malin, Jean 10, 10, est là pour tuer, pour dérober, pour égorger. Dieu nous a fait grâce. Lorsque l'enlèvement arrive sur la terre, les choses sont extrêmement difficiles. Les choses sont extrêmement terribles. Il y a l'Antichrist qui prend toute sa place et l'Antichrist va s'installer dans le temple de Jérusalem et il dira désormais, vous voyez comment les prophéties se matérialisent, dans Daniel 2, le roi dit, vous devez maintenant prier le roi. Au temps de la fin, quand l'église sera enlevée, l'Antichrist dira, dans le temple de Jérusalem, maintenant c'est moi qu'il faut prier. Vous n'avez plus qu'un seul Dieu. Il y aura l'Antichrist qui s'appelle la bête, lorsque vous lisez Apocalypse. Il y aura le faux prophète. Il y aura aussi le dragon ancien qui n'est autre que Satan, qui va leur donner de la puissance. Et ils vont faire des miracles. Apocalypse 11, deux témoins vont être là, qui sortiront du peuple juif, qui vont résister au diable, qui vont appeler à croire à Jésus, et Dieu permettra que l'Antichrist en vienne à bout. Ils vont mourir, ces deux témoins. Mais si vous lisez aussi toujours dans Apocalypse 11, vous verrez que par la grâce de Dieu, ils seront ressuscités. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Actuellement, le temple de Jérusalem est en reconstruction. Actuellement, nous entendons parler du nouvel ordre mondial. Actuellement, le diable est en train d'avancer dans beaucoup de choses qu'il met en place dans ce monde. Et l'objectif du diable, c'est de légaliser le péché dans le monde. Quand il dit à Adam et Ève, « Mange le fruit, ça ne fera rien. » C'est qu'il veut que le péché entre dans le monde. J'ai été très surpris de lire dernièrement une alerte sur Facebook où les actes de pédophilie ne sont plus des crimes. Ce sont maintenant des délits. Et il faut que l'enfant prouve qu'il n'était pas consentant à l'acte sexuel. Si on n'est pas dans le jardin d'Éden, en train d'accepter le péché, Voilà comment le diable, de façon masquée, et après on vous dit non, parce que lorsque c'est un crime, la procédure est longue. Un délit, c'est plus rapide, on peut saisir n'importe quel tribunal, la subtilité, elle est là. On a l'impression que oui, peut-être les choses ont évolué, c'est pour attraper plus de pédophiles. Mais comment voulez-vous qu'un enfant prouve qu'il n'était pas d'accord pour un acte sexuel? Est-ce qu'un enfant est fait pour un acte sexuel? Vous voyez comment le diable fait? Et c'est une loi française, désormais. Et c'est une loi qu'il faut appliquer dans ce pays. Le diable est à l'œuvre, mes chers amis. Il ne cesse d'attaquer le troupeau. Et Dieu est grand. Dieu est grand parce que nous savons que dans ces temps de la fin, nous savons que le mal sera encore plus fort. Ce matin, on a parlé de l'amour. Mais vous voyez bien que la Bible nous dit que les hommes seront encore plus méchants, beaucoup plus méchants. Nous sommes désormais capables de regarder la télé. Le pont de Gênes est tombé. J'ai vu une image. Je me suis dit, Seigneur, comment on peut nous montrer ce type d'image? Et pendant plusieurs jours, je ne suis pas sensible de voir qu'il y a des gens par terre écrasés. Vous vous rendez compte, nous regardons des images de mort, même pas avec une larme dans les yeux. C'est fou quand même. C'est fou. Et nous prions pour ces familles qui ont perdu des victimes. Nous prions pour les familles qui ont perdu des victimes partout dans le monde. Parce qu'on ne nous montre pas ce qui se passe au Pakistan. On ne nous montre pas ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. On ne nous montre pas tous les drames qu'il y a dans ce monde, qui sont inacceptables. Pendant 3 ans et demi, vous pourrez lire Daniel 9, il y aura les noces de l'agneau dans le ciel. Pour ceux qui ont assisté à des mariages ou qui ont vécu des mariages, les noces de l'agneau ne sont qu'un mariage entre l'Église et le Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous savez, tout mariage est extrêmement festif. Il y aura une véritable fête dans le ciel avec Jésus, en présence de Jésus, avec des anges, avec toute l'armée céleste. Mais voyez-vous, le contraste est de voir que pendant ces 3 ans et demi, il y a la fête dans les cieux et il y a les ténèbres sur la terre. Ah, sur la terre, ce sera dur. La Bible dit que les hommes voudront se donner la mort, mais la mort ne viendra pas à eux. Les gens chercheront à mourir tellement ils souffrent, parce que celui qui n'accepte pas le signe de la bête va extrêmement souffrir. Des tortures à n'en plus finir. Ce régime corrompu par Satan va faire une véritable répression dans ce monde. Et au bout de 3 ans et demi, il va se produire quelque chose d'extraordinaire. Dans le ciel, Jésus-Christ va rassembler son armée. Dans le ciel, Jésus-Christ va rassembler les croyants. Et désormais, il sera le temps de descendre sur cette terre. Jésus va descendre maintenant, de façon glorieuse. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Les événements s'accélèrent. Christ descend dans Apocalypse 16, 16. Apocalypse 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Vous voyez que la Bible parle de la bataille d'Armageddon. Parce que bien sûr, quand Christ va descendre avec son armée, Satan va réunir les principaux dirigeants du monde pour faire la guerre à Jésus. C'est audacieux, hein? Mais Satan, jusqu'à la fin, veut combattre Jésus. Et pourtant, il sait que Jésus est plus fort que lui, mais il va quand même rassembler les hommes pour vouloir combattre Jésus. Et à ce moment-là, Jésus va tous les détruire. C'est l'armée céleste qui descend. L'armée céleste descend toujours avec beaucoup de puissance et avec beaucoup de fracas. Que ceux-là qui pensent que avec des hélicoptères de combat, des chars d'assaut, ils peuvent venir à bout de Jésus-Christ, c'est vraiment une véritable utopie. Mais c'est une utopie que le malin fait toujours croire aux hommes. Parce que souvenez-vous que même dans l'Ancien Testament, des hommes ont voulu combattre Dieu. Pharaon, lorsqu'il a été affligé, il a accepté que le peuple d'Israël sorte. Mais lorsque le peuple d'Israël est sorti, Pharaon a encore endurci son cœur. Il a pris des chars pour pouvoir les poursuivre. La surprise, Exode 14. Combien de chars étaient devant avec Pharaon? 600 chars. 6, c'est le chiffre de l'homme. Quand l'homme veut passer pour Dieu. Et c'est pour ça que l'Antichrist mettra le chiffre 6, 6, 6. 3 fois 6. Parce que l'homme veut prendre la place de Dieu. Ces choses ont déjà commencé dans l'Ancien Testament, vont se produire dans le Nouveau. Satan va faire croire à l'homme qu'il est Dieu, qu'il peut être un Dieu. Et cet Antichrist va vouloir se proclamer Dieu. Et il sera détruit. Il sera détruit, mes chers amis. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est de savoir que Jésus va détruire et que Jésus va régner sur cette terre. Apocalypse 19. Après cela, j'entendis dans le ciel la voix forte d'une foule immense qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité et a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle a versé. Ils dirent une seconde fois « Alléluia » et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Une voix forte, une voix sortie du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grandement de forts coups de tonnerre. Et elle disait « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants pour frapper les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse, un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Je vis un autre ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient haut dans le ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée,
qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasirent de leur chair. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui était le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un temps. Ensuite, je vis des trônes et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Jésus pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ. Et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Jésus descend, il écrase les nations, le faux prophète et l'antichrist, la bête, sont jetés dans les abîmes, mais Satan est gardé pour 1000 ans. Ici, il y a une interprétation, il y a des personnes qui considèrent que les 1000 ans, en fait, se passent déjà dès maintenant. C'est-à-dire que Satan est encore enfermé et que pour certains théologiens, la bataille d'Armageddon est la bataille finale. J'avoue que personnellement, quand je lis la Bible, je pense qu'après Armageddon, il y a bien une autre bataille, celle qu'on appelle la défaite de Satan. C'est toujours dans Apocalypse 20, à partir du verset 7. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, et ils sont aussi nombreux que le sable de la mer. Ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le clan des saints et la vie des bien-aimés. Mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. À partir du verset 11, vous pourrez lire le jugement, parce que Jésus va juger la terre, il va juger les œuvres des hommes, et la grâce, c'est de voir que ceux qui auront cru en lui vont juger avec lui. La prophétie que nous venons de lire est une prophétie qui va se réaliser parce que la parole de Dieu est une parole de vérité. Et cette prophétie se réalise aussi dans la vie de quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es enlevé pour devenir un véritable adorateur. Jean 4, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas vivre à l'intérieur de toi la bataille d'Armageddon. Tu vivras des épreuves difficiles, mais Dieu te donnera la victoire sur tes épreuves. Mais tu vas vivre aussi la bataille finale où Satan va mettre tout ce qu'il peut pour te faire tomber, tout ce qu'il peut. Et Jésus lui-même t'en délivrera. Et si tu vis l'épreuve aujourd'hui, sois sans crainte. Parce que Jésus a vécu cette épreuve avant toi. C'est parce que Jésus est parti jusqu'au séjour des morts et qu'il est revenu que nous, désormais, nous avons l'assurance de marcher sur ses pas parce que lui-même, maintenant, il dit la mort et le séjour des morts n'ont pas d'emprise sur son royaume. C'est magnifique. Vous savez qu'un chrétien ne meurt pas. Un chrétien se repose. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous fait parce qu'il nous a évité la mort éternelle. C'est pour ça que la deuxième résurrection sera pour ceux qui seront jugés. Et maintenant, j'en appelle à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur est mort à la croix pour toi.
Le Seigneur t'aime, il ne veut pas te voir vivre des choses extrêmement difficiles dans ta vie. Il ne veut pas te voir éloigné de lui éternellement. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Si tu veux passer par les eaux du baptême, je t'invite à venir à la fin du culte. Mais je prie aussi pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que Christ soit le centre de ta vie. Parce que c'est Christ qui produit toutes ces choses. Le malin ne cessera de t'accuser. Tous les jours, le malin t'accusera. Mais Jésus sera toujours ton défenseur. Même dans l'épreuve, Jésus sera ton défenseur. Cette prophétie, tu dois la connaître. Parce que c'est une promesse que Dieu t'a faite à toi, personnellement. Toi qui as consacré ta vie à Jésus. Toi qui veux rejeter le péché dans ta vie, oh mon frère, oh ma soeur, même si c'est dur, rejette le péché. Et si tu n'arrives pas, demande à Dieu de t'aider, même si c'est dur. Parce que nous sommes au temps de la fin, et ce Dieu te fortifie, et ce Dieu t'appelle. Je termine par vous remercier pour toutes les prières, pour la santé de Corinne. Vous voyez, dans ces prophéties, je peux retrouver pas mal de choses que nous vivons. Nous sommes dans Armageddon en ce moment. C'est dur, le diable attaque, le diable peut attaquer une famille. Mais nous savons que celui qui vient du ciel, sur sa cuisse, il est écrit roi des rois. Si tu dois retenir quelque chose ce matin, retiens qu'il n'y a pas plus fort que Jésus. Dieu t'a béni. Thank you.